pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut être, comme je disais auparavant, assez sûr de soi, sans être trop sûr de soi. Et je pense qu'il faut avoir une certaine sensibilité personnelle qu'il ne faut pas avoir peur d'exprimer. Parce qu'en fait, c'est en étant soi-même qu'on peut avancer au mieux.
Genre le mec.
Mais c'est quoi son genre?
Genre c'est un métier d'homme.
C'est pas trop son genre.
Non mais fais pas genre.
Fais pas genre.
Machiniste est-il un métier d'homme ou de femme? Photographe, ingénieur du son, script ou danseur? Ces métiers nous questionnent sur la mixité dans les métiers du spectacle et de l'audiovisuel. À travers 20 portraits, Fais pas genre donne la parole à ces femmes et à ces hommes qui sont en minorité de genre dans leur métier. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je suis avec Ereo Ragono, qui est costumier. Alors Ereo, bonjour.
Bonjour Déborah.
Tu as reçu l'équipe pendant le tournage d'une série. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce tournage et un petit peu ce qui s'est passé?
Alors du coup, c'est une série qui s'appelle Le Coroner, pour une web série sur YouTube. Et, c'est une chronique fiction, en fait, qui parle un peu d'un coroner qui va disséquer des corps et qui sont reliés à des morts emblématiques du cinéma. Et donc, sur cette série, je me suis occupé de construire un peu la garde-robe du personnage principal et de quelques figurants qui sont intervenus durant la série.
Alors, comment tu construis un vestiaire pour une série comme là, pour un tournage?
Alors, on peut passer par plusieurs étapes. Généralement, on fait de la location chez des loueurs de costumes ou on fait des achats en friperie. Mais lorsqu'on ne trouve pas souvent ce dont on a besoin, on fait de la confection, justement, un peu sur mesure, en fonction de ce qu'on veut.
Quelles vont être tes sources d'inspiration, typiquement là, sur une série comme Le Coroner, pour créer des pièces uniques?
Alors, sur Le Coroner, j'ai dû créer justement un tablier qui était inspiré beaucoup des gilets pare-balles de la police. Donc, une construction assez simple, avec des scratchs. Et c'est beaucoup de recherches sur des choses qui ont déjà été faites, sur des envies concernant les réalisateurs et sur moi, ma vision aussi du personnage à la fin.
Est-ce que tu as travaillé sur d'autres tournages? Et si oui, est-ce qu'il y a des époques qui te plaisent particulièrement?
J'ai commencé justement après l'école à travailler sur le film Gauguin avec Vincent Cassel. Et c'était un film qui a été tourné dans les années 1910 à Tahiti. Donc en commençant par ce genre de tournage, c'est vrai que j'ai développé une certaine envie de travailler dans les costumes d'époque à partir de 1900, 1920, 1970, les années qui pour moi représentent un peu la mode à son paroxysme dans un sens, et aussi où l'utilisation du style était cohérente selon moi.
Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce tournage de Gauguin?
Alors, on a eu une préparation qui a été faite ici à Paris. Donc on a fait de la location de costumes, de la confection de costumes. Moi, je me suis occupé de chiner des tissus, des matières qui pouvaient correspondre à l'univers de Gauguin, sachant qu'en fait, on allait tourner à Tahiti. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait penser à l'avance, sachant qu'à Tahiti, il n'y a pas forcément tout ce qu'on peut trouver ici à Paris, les grands magasins pour les tissus ou les friperies, Montreuil ou les marchés aux puces. Donc, c'était beaucoup de création et d'anticipation. Et sur place, je me suis beaucoup occupé de la création de costumes autochtones. Moi, étant moi-même polynésien, c'était une partie qui, pour moi, était plus ou moins facile, entre guillemets, dans le sens où ce sont mes coutumes, ce sont mes origines. Et c'était une certaine facilité, en fait, pour moi, de passer sur ce genre de travaux. Donc, matière, tissu, des tressages à partir de feuilles d'arbres ou de plantes, etc.
Facile, mais aussi, j'imagine, passionnant, un peu de renouer aussi avec ton histoire, et ça devait être une expérience, j'imagine, assez incroyable à vivre.
Oui, c'est sûr, et on ne s'en rend pas compte quand on y est. C'est souvent, après le tournage, on a ce sentiment d'avoir accompli quelque chose d'énorme, parce que ça prend souvent 6 mois, 7 mois pour un tournage. Et donc, c'est toujours difficile de réaliser qu'en fait, on est passé par des millions d'étapes d'arriver à un projet fini. C'est quelque chose qui vient que quand on voit le film, je pense.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Je sais que tu es aussi styliste à côté. Tu peux nous parler un petit peu de ce goût de la mode?
Alors, comme je le disais, j'ai grandi à Tahiti. Donc, on va dire qu'on n'a pas un sens de la mode super développé, dans le sens où on porte des shorts de bain et des parios. Le plus souvent, on va dire, voilà. Donc moi, comment j'ai développé cette envie de vouloir être styliste ou même travailler avec du tissu ou des matières, C'est venu en regardant beaucoup d'émissions telles que Project Runway, sur Teva, et puis des recherches qui sont venues par moi-même, donc sur Internet, et puis en commençant à parler avec ma grand-mère, ma mère, ce goût du tissu travaillé à la polynésienne avec des imprimés. Donc c'était petit à petit, et je me suis dit, je pense que c'est ce que je veux faire, dans le sens où ça m'a beaucoup inspiré, et je me suis dit, pourquoi pas faire ça.
Et donc, tu as fait une école. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta professionnalisation?
Alors, je suis venu à Paris en 2012 ou 2013 pour une école de mode qui s'appelle LISA, où j'ai fait une formation de 3 ans, donc pour avoir mon diplôme. Et après ça, j'ai tout de suite commencé à travailler dans le cinéma. Mais en alternance, j'ai fait des choses dans la mode aussi, pour des défilés, pour des marques, pour créer des accessoires, pour créer des collections textiles. Et j'avais cette jointure entre mode et cinéma à la fois. Donc, je pense que je me suis pris dans un certain rythme. Donc, je me suis dit que je pouvais avoir les deux à la fois ou en alternance. Et je pense que c'est cette façon d'envisager ma carrière ou mon avenir professionnel qui me pousse encore plus à y aller à fond, en fait.
Est-ce qu'il y a des stylistes, des créateurs qui t'inspirent particulièrement?
Alors, je suis beaucoup inspiré par la mode japonaise. Donc, les designers comme des garçons, Issey Miyake, Yuji Yamamoto. Mais aussi, j'ai cette culture d'aller voir les différentes ethnies ou les différentes cultures qui peuvent exister dans le monde entier, en fait. Que ce soit une culture Maasai sur laquelle j'ai déjà travaillé une collection, sur la culture balkanique, enfin... C'est cette envie d'aller voir ailleurs qui me permet de pouvoir continuer aussi dans ce que je fais, en fait.
Selon toi, quelles sont les compétences qui te semblent vraiment indispensables pour travailler dans la mode et devenir costumier, par exemple?
Je pense qu'il y a une certaine assurance à avoir, dans le sens où il faut être sûr de ce qu'on propose et de ce qu'on fait sans être trop imbu de soi-même. Et après, toutes les compétences, des connaissances historiques, ou esthétique, en fait, sont des choses qui doivent être apprises, je pense, soit dans une formation comme moi j'ai pu le faire, ou aussi sur le tas, parce que forcément, on n'apprend jamais assez dans une formation scolaire. On apprend toujours beaucoup mieux lorsqu'on est lancé dans le vif du sujet et quand on te dit « fais ça, fais ceci, fais cela ». Et c'est une sorte d'automatisme, je pense, qu'on finit par développer.
Est-ce que tu dirais que c'est difficile de faire sa place dans ce milieu?
Alors, je pense qu'il ne faut pas être envieux, dans le sens où il ne faut pas avoir trop de hargne, parce que c'est quelque chose qui peut souvent, en fait, réfréner les gens avec qui on finit par travailler. Il faut avoir une certaine passion. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de limite à pouvoir aller au-delà de ce que tu as envie de faire. C'est juste, il faut être patient et passionné. Non, moi, je n'ai pas eu de difficulté, dans le sens où j'ai commencé à travailler avec... une chef costumière qui m'a toujours repris sur des projets au fur et à mesure des années et avec qui j'ai su développer aussi un certain entourage de personnes qui est en fait très important pour moi quand je travaille. Donc, que ce soit des amis ou des personnes avec qui j'aime travailler, sans l'un ou sans l'autre, je pense que ce serait pas un projet où je pourrais me sentir à même de le faire, en fait.
Alors, il y a 89% de femmes dans les métiers du costume, dans l'audiovisuel et dans les spectacles vivants. Est-ce que ça a été pour toi une question que tu t'es posée à un moment, de savoir que tu serais peut-être en minorité dans ce métier?
Alors, je pense que je ne me suis jamais posé la question, parce que dans un sens, je le savais. Après avoir fait ma formation dans une école, j'ai bien vu que dans une classe de 27 élèves, on était 3 garçons. Donc, c'est petit à petit, on apprend à observer autour de soi. On se rend bien compte qu'en fait, c'est un monde féminin principalement. Et je me suis dit, bon, c'est comme ça. Et puis voilà, quoi. Si tu es passionné par ce que tu fais et que tu as envie de le faire, tu traces ta route dans un sens. Je n'ai jamais eu d'appréhension, je n'ai jamais eu peur, je n'ai jamais été mal reçu par qui que ce soit.
Pourquoi, toi, ça te semble important qu'il y ait justement aussi une mixité dans les métiers de la mode et du costume?
Alors, je pense que, peu importe le sexe, on peut tous apporter une certaine vision, en fait, à ce métier qui est un métier créatif. Donc, on ne devrait pas avoir de barrières concernant la mixité. Peu importe le genre, on a tous une certaine patte, une certaine créativité à apporter à ce métier. Parce que je pense que ce n'est pas un métier qui est cantonné à un seul sexe, dans le sens où un homme aura sa vision sur un vêtement. Mais je pense que les hommes ont tout à fait leur place dans le monde du costume.
Comment tu expliques la faible part des hommes dans ces métiers ?
Alors, je pense que c'est beaucoup relié à l'histoire, dans le sens où, depuis toujours, en fait, le métier du costume, avant, c'était pas le métier du costume, mais de l'habillement, c'était un domaine que les femmes exerçaient beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on a cette barrière peut-être, même si dans les métiers, quand on y est dans le métier, par exemple, de la mode ou du cinéma, on ne s'en rend plus vraiment compte. Mais dans la société, je pense, d'aujourd'hui, c'est toujours une certaine... Il y a une certaine association avec ce genre de métier, donc féminin ou peut-être pas assez masculin. Enfin, ça doit être quelque chose qui doit aussi être lié à la virilité de la personne. Enfin, c'est beaucoup d'idées préconçues, en fait.
Alors, tu parles d'idées préconçues. Est-ce que toi-même, tu as pu parfois ressentir une incompréhension, un regard même parfois interrogatif sur ce choix auprès de ta famille ou de tes proches ?
Alors, jamais, j'ai toujours été beaucoup soutenu par tous les membres de ma famille, par mes amis ou par toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au cours des années, maintenant, aujourd'hui encore. J'ai jamais eu de personne qui m'a dit « non, tu ne passeras pas ».
Quel conseil tu donnerais à un jeune homme, à un homme qui aimerait se lancer dans la mode ou dans les métiers du costume ?
Déjà, il ne faut pas avoir peur. Parce que je pense que souvent, pour un homme, il se dit « la vision d'autrui va affecter mon travail ou ma vie ou peu importe. » Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut être, comme je disais auparavant, assez sûr de soi, sans être trop sûr de soi. Et je pense qu'il faut avoir une certaine sensibilité personnelle qu'il ne faut pas avoir peur d'exprimer. Parce qu'en fait, c'est en étant soi-même qu'on peut avancer au mieux.
Merci beaucoup, Eréo, pour ce témoignage. Merci.
Merci.
C'est la fin de cet épisode. Pour retrouver l'intégralité des portraits en podcast, photo ou vidéo, rendez-vous sur notre site dédié.